Actu SF. Les podcasts.
Voilà, nous sommes maintenant au complet, donc nous allons pouvoir commencer cette table ronde, la fantaisie urbaine. Est-ce un fantastique contemporain ? Et donc avec... dans les fauteuils royaux, j'ai l'impression d'être au mariage de Harry, quasiment. Donc, mais nos auteurs les méritent, hein, ces fauteuils. Donc, Cassandra O'Donnell, auteure de la série Rebecca Keane. On a 6 volumes, si je ne me...
En fantasy urbaine.
Oui, 6 volumes et on attend...
Le septième,
ouais, voilà.
Je sais, on n'arrête pas de me demander le septième.
Ouais, j'entame fort, je
commence l'année
fort
prochaine,
suite.
J'arrête bon, pas de le dire.
Bon, voilà. À côté de Cassandra, Roxane Dambre, qu'on avait connue d'abord pour sa tétralogie animée, et ensuite pour sa trilogie, la des Scorpies, auquel on a eu le plaisir de donner le Grand Prix de l'Imaginaire, d'ailleurs. Et à côté, Merope Malo, qui elle est l'auteur de la trilogie qui s'intitule L'héritière des Raven, donc sorcière malgré elle, sorcière en son temps et sorcière à tout prix. Voilà. Et donc, alors, mesdames, considérez-vous que vous écrivez du fantastique ? Alors, on commence tout de suite parce que pour moi, le fantastique, j'ai vérifié, hein, le dictionnaire du Larousse, dans le Larousse, la définition du fantastique, récit où des éléments surnaturels interviennent dans un récit réaliste. Dixit Todorov. Alors, mesdames, vous sentez-vous todorovienne ?
Forcément, la fantaisie urbaine, c'est exactement ça. Il y a un monde normal, des villes de nos jours, avec des humains, des êtres normaux. Et puis à côté, il y a effectivement des éléments fantastiques qui surviennent. Et des gens qui ont des pouvoirs. Il y a un monde souterrain, un peu underground. C'est tout l'intérêt. Auteur de fantastique, ça c'est sûr. Aussi bien pour, mais c'est la même chose, je dirais, pour que ce soit l'urban fantasy ou la fantasy, l'heroic fantasy ou les autres choses. Ah.
Non,
mais
c'est
pas grave.
Non,
si,
non.
C'est... Ça, c'est le mien. C'est
ah,
cool.
Voilà.
Et il y a le scorpion.
Il y a un scorpion.
Ah, il y a le tien aussi
Non. On aurait été ravis d'avoir aussi Marie-Charlotte Delmas, mais elle n'est pas avec
elle
nous.
Elle n'est pas avec nous, Marie-Charlotte.
Donc, on vous le rend. Et puis, on vous rend peut-être le livre de Manon Fargeton qui était là juste avant. Désolé, hein, les petites cuisines internes. Voilà, c'est du direct et vous essuyez les plates. C'est, le jour de c'est l'après-midi de l'ouverture, donc c'est un peu normal. Voilà, donc, alors on a cassé Cassandra O'Donnell dans son élan.
Bah, c'est pas un problème, non, c'est simplement qu'effectivement, quand on parle de moi, généralement, on parle ou d'une auteure jeunesse, parce que je fais les deux, ou d'une auteure de fantastique, mais sinon, ce sera de toute façon d'une auteure en fantastique en jeunesse. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera toujours du fantastique, quasiment.
Roxane ?
Ah, bah, j'ai rien à ajouter, c'est parfait.
C'est un peu facile, ça.
Très bien. Alors, dans ce cas-là, je vais dire que oui, effectivement, nos livres sont non seulement des livres de fantastique, mais ce que j'aime bien dire quand je présente mes livres, c'est que ce sont des livres fantastiques. Et jamais personne ne fait la nuance, et je trouve ça formidable.
Oui, moi, je trouve ça un peu vaste, en fait, comme définition du fantastique, parce que quasiment tout ce qui est imaginaire pourrait rentrer dedans. Moi, la définition pour moi du fantastique, elle est beaucoup plus restreinte. C'est est-ce qu'il y a un monde réel, d'accord, mais il y a un doute sur la réalité des événements qui s'y passent. Donc, c'est typiquement le hors-là de Maupassant. Et je ne suis pas du tout dans cette veine-là, puisque moi, il est question d'une jeune fille qui découvre à 18 ans qu'elle a des pouvoirs de sorcière parce que sa famille est d'une lignée de sorcières et qu'en revenant dans sa ville natale, ses pouvoirs se réveillent. Donc là, du coup, on n'est pas dans le doute. Elle doit assumer et ça ne lui fait pas vraiment plaisir. Et en plus, elle n'a pas de professeur puisqu'elle découvre aussi que... On lui a... Certes, elle savait que... Enfin, sa famille ne répondait pas, mais en fait, elle découvre qu'elle n'a plus de famille. Donc du coup, elle n'a pas de professeur. Enfin, c'est vraiment la galère. Et donc, ce côté fantastique... non, moi, je ne suis pas trop... Enfin, je pense que mon texte, c'est plutôt de la fantaisie contemporaine parce que voilà, c'est vraiment notre monde dans lequel il y a quelques personnages qui vont avoir des pouvoirs. Fantastique, si on veut, une sorcière. Il va y avoir aussi le fils d'une Néréide, parce qu'on est au bord de l'océan et que du coup, c'est très important la thématique marine. Et je dirais même, à la limite, je pourrais parler de fantaisie marine ou maritime plutôt que de fantastique.
Alors là, on commence à rentrer vraiment dans le bif du sujet, parce qu'effectivement, Cassandra, Roxane, dans vos séries, les pouvoirs sont toujours cachés. Ce sont des créatures qui vivent cachées. L'élément essentiel, c'est surtout que les humains ne sachent pas qu'ils existent.
Bah, ça, c'est une évidence. En général, quand on est une minorité, on n'a aucun intérêt à ce que la majorité, qui est beaucoup plus costaud et qui est beaucoup plus nombreuse, l'apprenne. Parce qu'en général, les gens ont du mal à tolérer la différence et que ça leur fait peur. Tout ce qu'ils ne comprennent pas, ça leur fait peur. Et on sait ce que ça donne déjà dans l'histoire, quand les gens ont peur. Donc, effectivement, ça fait partie. Mais de toute façon, c'est souvent très symbolique. Le monde tel qu'on l'écrit dans l'urban fantasy, il est souvent séparé en deux. Vous avez les humains d'un côté et les créatures fantastiques de l'autre. Il faut être très clair, c'est un monde divisé. C'est un monde, et c'est ce qui le rend intéressant. Après, il y a tellement de... Parce que moi, c'est vrai que d'une manière globale, le fantastique, ça ne veut rien dire pour moi. J'ai plein de bouquins, pour moi, mon passant, effectivement, c'est du fantastique. Enfin, il a écrit des fantastiques. Il y a énormément de choses, en fait. Pour le coup, Kafka... Et pour le coup, où s'arrête le fantastique, où est-ce qu'il commence ? Nous, on est des contes. Enfin, moi, je me considère plutôt comme une conteuse. C'est-à-dire, voilà, on va raconter des histoires, mais l'urban fantasy, pour moi, c'est tel que je le conçois, c'est du policier avec des éléments fantastiques et ce qu'on appelle une saga. Donc, très importante, avec des personnages très forts, très hauts en couleur, récurrents. Dans ma série, c'est comme ça que ça se passe. Après, il y a tellement de genres de livres différents. Qu'est-ce qu'on va qualifier ? Alors, évidemment, je pense que celle qui correspondra le plus à l'urban fantasy, ce sera les Rebecca Keane, que vous ne voyez pas là, mais qui est ma série phare. Et les Rebecca Keane, c'est, je crois qu'on doit être la troisième plus grosse série d'urban fantasy en France actuellement. Donc, derrière les Anita Blake, je crois, et les Briggs. Donc, on correspond à... une tendance, un courant. Rebecca Keane, c'est un courant. La Légende des Quatre est un autre courant. Scorpie est encore un autre courant. Et ton livre est encore autre chose. Donc c'est vrai que c'est difficile de globaliser. On peut parler de nos histoires, mais dire que voilà, c'est compliqué.
Après, il y a quelque chose de fondamental dans la description du fantastique tel que tu l'as donné, c'est que ça se passe dans un monde réaliste. Donc, de base, si ça se passe dans un monde réaliste et qu'il y a du fantastique, le fantastique est nécessairement caché. Parce que dans notre monde à nous, le fantastique n'existe pas. Donc si on veut se placer dans un contexte fantastique, dans un contexte réaliste, pardon, il faut que le fantastique soit caché.
Bah, pas forcément, tu vois, dans un truc comme True Blood, la série de Charlène Harris, c'était pas le cas.
Oui,
et
mais
pour
alors
le coup,
là,
effectivement, ils avaient fait leur coming out, les vampires.
Voilà, c'est ça. On est sur une société qui est quand même futuriste par rapport à nous, puisqu'ils ont fait leur coming out.
Ouais, mais pas forcément vraiment futuriste. Hein. Tu trouves, enfin, moi personnellement, quand tu vois les villes, etc., tu vois pas la différence. Donc non, je dirais que ça pourrait se passer de nos jours et que si un jour on voit une résurgence comme ça, ça pourrait être marrant. Non, je rigole. Parce qu'il y a toujours des lecteurs qui te demandent si tu crois aux vampires, tu as les questions un peu bizarres, tu vois.
Ou alors si on a déjà vécu ce qui s'est passé dans nos romans.
Oh oui, alors ça oui.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Est-ce que combien de cadavres il y a dans mon jardin? Il y en a pas tant que ça, hein, je pense pas.
Et d'ailleurs, moi j'ai épousé un tueur à gages.
Ouais, ça me paraît très bien.
Vous voyez, on en apprend hein, tous les jours. Justement là, on vient de parler de fantasy urbaine. Il y a le mot urbain dedans, ouais. Donc théoriquement des villes. Moi, ce qui me frappe, c'est que seule Roxane d'Ambre, a une action qui se passe dans une grande ville. Parce qu'habituellement, les séries qu'on a citées, ça se passe souvent à New York, à Londres, etc. Là, Roxane, c'est Paris pour animer. Les Scorpies, c'est aussi
c'est Paris puis Belfort.
Début. Après, et puis on n'en dit pas trop, mais il y a quand même une autre grande ville qui est Venise, dans le troisième, ça on peut le dire quand même sans spoiler trop.
On spoil pas, hein, c'est voilà, assez évident sur la couverture que c'est Venise.
Oui, mais on connaît les couvertures qui spoilent des fois. Par contre, vous Cassandra, ça se passe à Burlington dans le Vermont, moi j'y suis allée. Burlington, c'est pas une métropole trépidante.
Ah non, pas vraiment, non. Justement, j'avais choisi le coin le plus calme des États-Unis. 0% de criminalité. Et ça me faisait délirer d'installer un monde complètement dingue, de créatures plus dangereuses les unes que les autres, dans un endroit aussi calme. Un des endroits les plus calmes des États-Unis où il n'y a aucune criminalité. Et c'était justement ce contraste-là qui me plaisait. Et si, évidemment, si je l'avais casé à Détroit, le nombre de cadavres n'aurait pas... Enfin, vous voyez, c'était plus la même problématique. Là, ce qui était intéressant, c'était justement ce contraste, de travailler dessus.
Et vous, Méropée, C'est une petite ville portuaire. On ne sait pas d'ailleurs trop bien même où elle se situe.
Elle est sur l'Atlantique, voilà, parce qu'en France, il y a un océan, c'est l'Atlantique. La Méditerranée, ça ne m'intéressait pas trop, parce que je trouve qu'en termes de... comment dire, d'appel au large, quoi. Le côté, voilà, justement, Néréide et tout, pour moi, ça, même si, ok, la Grèce est en Méditerranée, d'accord, et que c'est nos racines en termes de mythes, et moi, c'est vraiment ma... c'est vraiment ce qui m'intéressait de raconter. Il y a Poséidon un peu dans le tome 3 et tout, donc je suis vraiment partie là-dessus. Mais c'est vrai que la ville dans laquelle se passe l'histoire, qui est Ismence, c'est en fait une ville imaginaire qui pourrait être une sorte de petite Marseille, mais sur l'Atlantique, avec un peu de la Vendée. Enfin, il y a un côté un peu mix que j'aimais bien. Parce que ça me permettait aussi de ne pas faire des recherches sur une ville. Donc voilà. Mais effectivement, il y a un côté très solaire, très maritime, très vacances, que je n'associe pas à l'urban fantasy. J'aime beaucoup l'urban fantasy, j'en lis. Mais c'est vrai que ça se passe plutôt voilà, à Londres, dans des ruelles un peu tortueuses et tout. Et moi, ce n'est pas du tout l'ambiance que je voulais donner à mon roman, en fait.
Alors que vous, c'est totalement assumé, Roxane. C'est Paris.
Alors, non seulement c'est Paris, mais en plus, Charlotte, l'héroïne de Scorpi, habite mon appartement. C'est mon appartement qui est décrit. Pour vous dire que j'ai épousé un tueur à gages pas loin. Ouais.
Et vous avez un petit garçon qui sonne régulièrement pour vous dire « Tu veux que je le tue ?»
J'aimerais tellement. Mais moi, je dirais oui.
Alors... On a commencé à aborder donc cet environnement et Cassandra O'Donnell commence à parler de toutes ces créatures surnaturelles. Là aussi, il me semble que par rapport, je dirais, au fantastique entre guillemets traditionnel, dans lequel on a affaire, soit c'est un fantôme, soit c'est un vampire, mais il n'y a en général qu'une créature unique. Chez vous, il y a toujours il y a un foisonnement.
Ah oui, non mais moi, effectivement, alors là pour le coup, mais c'est normal parce que quand, enfin c'est normal, non, c'est le choix que j'avais fait en me disant que de toute façon à partir du moment où les créatures, où les créatures existent, elles existent toutes, celles de notre imaginaire et celles qu'on peut créer en plus. Donc je me suis un peu donné à cœur joie avec ça.
J'avoue que le médecin légiste Ragondin-Garou, quand même.
Ah, le médecin légiste Ragondin-Garou qui se transforme parce qu'il a peur, moi j'adore. Hein. Non mais il y a énormément d'humour. En fait, dans Rebecca Kinch, je m'amuse tout le temps avec mes personnages, avec les créatures que je vais créer. Voilà, c'est en fait Rebecca Kinch, c'est souvent c'est de l'urban fantasy, mais c'est de l'urban fantasy drôle. C'est pas avec une héroïne qui est une sociopathe quand même, qui tue sans remords ni regrets. Mais il y a l'humour est fondamental dans la série de Rebecca Kinch en tout cas. C'est vraiment la clé de voûte. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les lecteurs aiment vraiment cette série. Mais après, sur le fantastique, c'est vrai qu'on ne joint pas forcément dans l'urban fantasy habituellement. Il n'y a pas forcément beaucoup d'humour dans les livres. Les anglophones, il y a une ou deux séries peut-être qui peuvent être...
Marie-Janice Davidson.
Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'ils utilisent peu l'humour et c'est pris vraiment premier degré. Rebecca Kinch, c'est vraiment très deuxième degré, hein, pour le coup.
Roxane, chez vous aussi, que ce soit animé... votre première série ou les Scorpies, il y a toujours beaucoup d'humour.
Oui, il y a toujours un énorme décalage entre le monde réel et le monde fantastique. Deux mondes qui ne devraient pas entrer en communication et quand ils se télescopent, mais c'est du grand n'importe quoi. Et ils n'ont pas les mêmes codes, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont rien en commun. Et du coup, quand un petit garçon qui a été élevé dans l'idée « si quelqu'un t'embête, tu le tues », eh ben, il ne va pas comprendre pourquoi quand il dit « Tu veux que je le tue ?» En plus, c'est pour faire plaisir qu'il propose ça. Et l'autre, elle dit non, il ne comprend pas. Et donc forcément, c'est très drôle, c'est très frais. Et c'est ce que j'aime aussi.
On a une devise familiale pour ça, nous. Celui qui bute, il creuse.
ça, c'est pratique. Alors, dans l'héritière des Raven, elle rit un petit peu moins. Hein.
Ouais, surtout au début, quand elle découvre qu'en fait, ses parents ne répondaient pas parce qu'ils étaient morts et qu'on lui avait caché ça. Du coup, non, c'est vrai que le début, c'est pas super fun pour mon héroïne, Asia. Mais en fait, elle va quand même assez vite... Il y a des gens qui vont l'aider, des amis de sa famille. Donc certes, elle va en plus découvrir que ses pouvoirs se réveillent. Et donc en plus, elle est sorcière. Mais c'est moi qui m'amuse. Parce que du coup, je vais quand même la montrer en difficulté dans l'apprentissage de ses pouvoirs. Et franchement, ça va quand même être rigolo. Parce qu'elle a un grimoire, mais le grimoire, il ne veut pas lui donner forcément les réponses. Parce qu'elle peut pas encore, elle n'est pas encore assez apte à maîtriser les pouvoirs qu'elle a et tout. Donc moi, je m'amuse par rapport à ça, oui. Je pense que le lecteur aussi.
Tout à fait. Et puis, en plus de ça, comment dirais-je, on la voit en même temps qu'il se débat dans ses problèmes financiers. Elle est obligée. Moi, j'ai trouvé très drôle qu'elle soit obligée d'aller de devenir serveuse dans un salon de thé. Bon.
Elle a des grandes ambitions universitaires. Hein. C'est une jeune fille qui est intelligente, qui a envie de faire des études et tout. Puis, en fait, OK, elle a une très belle maison, grande mais vide, et elle n'a pas d'argent pour payer les factures, en fait. Donc, du coup, elle retrousse ses manches et elle se met au boulot. Et effectivement, elle trouve un job de serveuse et elle est très contente parce que ça va lui permettre de manger et tout. Et puis, en fait, ça va aussi être un point de départ pour... justement pour régler aussi par exemple les problèmes un peu du salon de thé où elle est. Enfin, je tente ça de façon positive. Hein. C'est pour dire que voilà, on peut galérer, mais qu'en comptant sur soi, parce que c'est aussi ça pour moi le but de ce livre, une jeune femme décidée peut faire beaucoup, beaucoup de choses.
Elle a quel âge, tu disais ?
Elle a 19 ans.
19 ans. Tu le dessines plutôt aux adultes ou aux ados ?
Plutôt ados-adultes, en fait. C'est-à-dire que vraiment, mon public, c'est plutôt les ados. Mais après, j'ai des lectrices qui sont adultes, qui sont plus âgées que moi.
Ils aiment bien le young adult en général. Non, c'était pour savoir, c'est plutôt young adult. Okay. Parce que c'est vrai qu'une héroïne de 19 ans, en général, il y a tout un apprentissage. En plus, là, tu as le double apprentissage. Donc là pour le coup, effectivement.
Pour moi, c'est effectivement pas de la bitlit, au sens où il n'y a pas d'enquête policière comme il peut y avoir en bitlit avec une héroïne qui maîtrise ses pouvoirs.
Après, tu as des héroïnes qui ne les maîtrisent pas du tout. Hein. En bitlit aussi, mais effectivement après c'est un parti pris, c'est-à-dire que où tu l'as, je crois que Rebecca ça va être la plus puissante du départ, je pense, au départ si tu veux de héroïne, parce qu'elle était déjà, je suis partie de ce principe-là que c'était déjà une sociopathe, une tueuse et qu'elle avait déjà un maximum de pouvoir. Mais pour le coup, on peut s'amuser énormément quand c'est un apprentissage. Ça c'est ce que je fais pour les ados par exemple pour la Légende des Quatre. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette mutation qui est intéressante à travailler, je trouve, pour les adolescents. Qui est vraiment intéressante, à double titre.
Rebecca Kinn, elle a trouvé le job idéal pour elle. Elle est sorcière de guerre, elle devient Yassine, elle a permis de tuer tous les gens qu'elle veut.
Franchement, j'ai mis tous mes fantasmes. Hein. Que les choses soient très claires. De toute façon, déjà, on le mettait dans l'ambiance, je crois que la première phrase du tome 1, c'est « Je me demandais si je devais rouler ou non sur le cadavre ». À partir de là, vous rentrez dans l'univers et cette héroïne, elle est complètement déjantée, mais c'est ce qui est intéressant. Mais on s'amuse en écrivant, parce que si on ne s'amuse pas, c'est mort. Hein. Le public le sent, le lecteur le sent, et c'est dommage.
Ben, vous aussi, Roxane Dambre, vos personnages dans animé, elle devient agent des services secrets.
Oui, rien que ça. Oui, oui.
Et des services secrets qui s'occupent des créatures, des affaires bizarres.
Ah oui, mais alors là, elle n'a pas fait exprès. Le but, c'était, donc pour Lou, qui est métamorphe, elle peut se transformer en n'importe quel animal, à condition que cet animal ait la même masse corporelle qu'elle. Donc comme elle fait 55 kilos, si elle se transforme en poulet, ça fait un gros poulet. Et donc son but, c'était d'infiltrer les services secrets pour s'assurer que les services secrets ne soient pas sur le point de découvrir sa race. Et elle va être mutée directement quand elle arrive au service au service de l'explication du surnaturel, de l'étude des phénomènes surnaturels. Ah, c'est pas de peau, parce que le truc le plus surnaturel de Paris, c'est elle. Donc voilà, ça part de là. Et donc du coup, elle va comprendre plus vite que tout le monde ce qui se passe, pourquoi il y a des choses surnaturelles. Et elle va les dire en disant « Ah bah oui, bah ça c'est évident, c'est ça. Cette personne a été mangée par une sauterelle géante. » Tout le monde va se décomposer, il fait n'importe quoi. Et puis le légiste, il se penche sur le truc, il fait Ah ouais, c'est une sauterelle géante. Et c'est que des choses comme ça.
Et en étant obligé de cacher la manière.
Tout
donc
en
ils sont
étant,
tous
voilà.
persuadés qu'elle a des pouvoirs de déduction. C'est un Sherlock Holmes extraordinaire.
C'est ça. Tout le monde est persuadé qu'elle est extrêmement intelligente. Elle l'est. Elle est extrêmement intelligente. Mais voilà.
Et il faut dire qu'en plus, si on lui file un steak bien cru, alors, ça voilà. aide.
Un steak cru, un steak tartare, un saumon entier, elle est contente. Elle ronronne. Ce qui lui pose des problèmes dans la vie, parce que ronronner quand on est auprès de quelqu'un qui est parfaitement humain, il ne comprend pas.
Et en fait, elle est, ensuite, Charlotte, elle, c'est tout le contraire.
Et Charlotte, c'est exactement le contraire. Autant Lou, dans Animae, est quelqu'un de très exubérant, de fonceur, de... Qui, bah, s'il y a un cadavre, et bah, y a un cadavre, hein. Au pire on le mange, comme ça on n'est pas obligé de le cacher, et puis voilà, terminé. Autant Charlotte est humaine, totalement humaine, et d'une gentillesse improbable, et trop gentille même, d'ailleurs elle se laisse un peu marcher sur les pieds, hein. Elle a un patron un peu lourd, voire carrément lourd, et bah, elle ne fait rien, parce qu'elle attend que ça se passe, elle attend la fin de sa période d'essai, parce qu'elle ne sait pas quoi faire, et voilà, c'est tout le contraire. Lou, elle lui aurait mis un coup de genou bien placé, ça aurait été terminé. Charlotte, elle ne peut pas. Et donc, du coup, à contrario, autant les compagnons de Lou vont être des gens très droits, autant les compagnons de Charlotte, bah, ce sont des tueurs à gages sans foi ni loi. Pour contrebalancer un peu, quoi. Faire un karma à peu près correct.
Sans foi, non, parce qu'ils ont un sens de l'honneur, quand même. Oui. Sans loi, ça, on était, oui. Mais ils ont quand même...
Alors, il y a un code de l'honneur, oui, il y a un code de l'honneur chez les scorpions. Donc, l'article 1, c'est qu'on ne tue pas si on n'est pas rétribué. L'article 2 dit qu'on ne tue ni les femmes ni les enfants. L'article 3 dit qu'on ne tue pas un donneur d'ordre, même si la cible donne fait une offre supérieure. Et l'article 4 dit bien que si on s'en prend à un membre de la famille, les autres articles ne valent plus rien. Donc finalement, si on applique l'article 4, si on peut dire qu'ils sont un peu sans foi quand même. C'est pour ça qu'Elias, d'ailleurs, passe, le petit garçon, passe son temps à dire « Tu veux que je le tue ?» à Charlotte en espérant que ça va marcher.
Rebecca Keane aussi, elle applique la loi très strictement.
Ah ben non, mais Rebecca Keane, elle se pose aucune question. Elle, c'est une machine à tuer. Elle est très particulière. Mais pour le coup, elle est politiquement incorrecte de toute façon. C'est un personnage qui est lâché, en fait. Mais elle n'est pas humaine. Elle n'a jamais été élevée parmi les humains. Donc, le bien, le mal, ce sont des valeurs qui lui échappent souvent. Après, elle a sa propre conception de ce qui est juste ou de ce qu'elle doit faire ou non. Son propre code de l'honneur, qui est celui de sa famille. Mais généralement, Rebecca Keane, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que souvent, les personnages sont là sur des grandes... Voilà, il y a énormément d'introspection, d'état d'âme, de problèmes. Ah, Rebecca n'en a aucun. Elle n'a aucun état d'âme. Elle fait ce qu'elle doit faire au moment où elle doit le faire. Et c'est ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est ce que je dis, on a l'impression d'être dans Twilight et tout à coup, vous virez dans Dexter. Voilà, bah c'est exactement ça, c'est-à-dire on bascule et on est là-dedans, c'est-à-dire que c'est une tueuse qui tue des tueurs, tout simplement, de manière assez amusante, je dois dire, à chaque fois, mais avec beaucoup d'imagination et beaucoup de pouvoir.
Elle est très créative.
Elle est extrêmement créative, mais voilà, c'est ça, on n'est pas du tout dans le fantastique, on est même plus dans le policier, je dirais, c'est plus un côté thriller encore, les Rebecca que pas mal d'urban déjà, parce que les enquêtes sont plus poussées, enfin, j'essaie de les pousser davantage, en fait, que le font les anglo-saxons souvent.
Oui, et puis il y a une dimension, comment dirais-je, un peu historique, parce que je pense par exemple à Ancestral, où on remonte très loin dans le temps grâce à un personnage. Alors, je ne sais pas si on peut trop en parler sans trop spoiler, c'est toujours un peu difficile.
C'est difficile avec les Rebecca Keane.
Voilà.
Bah, disons qu'on revient de temps en temps dans le passé et les origines du monde, et les origines du monde aussi surnaturel, évidemment, de temps en temps. Et c'est ce qui est intéressant avec Rebecca Keane, c'est que c'est un clan, le clan de sorcières dans lequel elle est élevée, les Vicaris, sont les maîtresses des éléments. Elles maîtrisent l'eau, la terre, le feu, l'air, etc. Et sont des sorcières qu'on prend pendant longtemps pour des légendes, c'est les croque-mitaines du monde fantastique. Donc, et les autres croient même plus qu'elles existent, c'est-à-dire que même les autres créatures surnaturelles ne croient même plus à leur existence. Et pour le coup, c'est ce qui est intéressant dans la découverte des origines, des choses comme ça, sont des choses qu'elle apprend elle-même tout le temps sur ce qu'elle est, sur d'où elle vient. C'est ce qui est intéressant. Dans Rebecca Kane, il y a toujours des révélations d'ailleurs. C'est ce que je m'arrange en général à faire. J'essaye de le faire le mieux possible. Et on découvre toujours à chaque tome, il y a une vraie évolution du personnage en plus de tome en tome. C'est-à-dire que ce n'est pas une répétition de plein de trucs différents. Non, elle évolue énormément du premier tome au sixième tome. Sauf qu'elle, elle ne va pas. On n'est pas dans le personnage qui s'endurcit, etc. Elle va s'humaniser au fil des tomes. C'est ce qui est intéressant.
En partie parce qu'elle est un enfant aussi.
En partie parce qu'elle a un enfant, mais je ne crois pas que ce soit seulement ça. C'est tout un environnement qu'elle ne connaissait pas et auquel elle s'est habituée et qui a constitué une nouvelle famille, en fait, une notion de famille qu'elle connaissait très peu. Elle savait ce qu'était son clan, mais elle ne considérait pas son clan comme sa famille. C'était des collègues pour le moins, à part sa grand-mère qui est un peu particulière. Mais
oui, disons j'allais dire la grand-mère.
Oui, non, mais c'est toutes des tueuses. Donc les mamies tueuses, évidemment, je me suis éclatée avec elles. Les grand-mères tueuses, je me suis beaucoup amusée. Mais sur le coup, la fantaisie urbaine, d'une manière globale, je pense que ça ouvre de très larges portes. Mais après, ça dépend comment nous, on le traite. Nous, en tant qu'auteurs, on va s'approprier le genre. C'est-à-dire que nous, par exemple, il y a des auteurs qui vont vous dire, moi je fais Scorpie, c'est un genre complètement différent de ce que font les anglo-saxons. Moi je suis rentrée plutôt dans le courant plutôt des anglo-saxons et Merope fait encore autre chose. Donc c'est vrai qu'on a du mal à définir parce qu'il y a tellement de bouquins différents, de genres différents dans le fantastique, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Mais dans la fantaisie urbaine aussi, bizarrement.
On le voit justement avec Asia, donc l'héritière des Raven, parce que, comme vous l'indiquiez, elle apprend sur le tas. Alors, sans l'aide de son grimoire qui lui met des bâtons dans les roues, elle a fort heureusement quand même des amis de sa mère et de sa tante qui sont là pour essayer de l'aider un petit peu, mais elle apprend à la dure.
Oui, elle tâtonne. Il y a des signes comme quoi, effectivement, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire une sorcière, parce qu'il y a par exemple une horloge lunaire qui se réveille quand elle arrive dans la maison, parce que c'est vraiment elle l'héritière de la lignée. Et jusque-là, l'horloge, elle ne marchait pas, elle était couverte de poussière. Et puis Asya arrive et elle croise la route d'un fragment maléfique qui va aussi d'une certaine façon réveiller ses pouvoirs. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'elle va se rendre compte que cet héritage, elle n'en veut pas d'une certaine façon. Et en même temps, la sorcellerie, et en même temps, comme c'est tout ce qui lui reste de sa famille, elle se dit qu'en creusant la question, elle va quand même un peu plus les connaître. Elle n'a pas le choix, quoi, d'une certaine façon, parce qu'ils sont morts. Enfin, c'est les deux personnes les plus importantes de sa vie, ils sont mortes. Donc du coup, c'est par la sorcellerie qu'elle se dit qu'elle va pouvoir se rapprocher de ce qu'ont été sa mère et sa tante et de ce qu'elles ont fait pour la ville, parce qu'il y a un lien très fort entre sa famille et la ville d'Ispence. C'est aussi la recherche un peu de ses origines et de ce qu'ont fait sa mère et sa tante. Donc, elle est aidée par les amis de sa mère et de sa tante qui n'y connaissent pas grand-chose en sorcellerie, mais qui sont pleins de bonne volonté.
Alors, comme je veux quand même essayer que nous restions un petit peu dans le thème général... Il me semble qu'une autre différence entre ce que vous écrivez en fantaisie urbaine et la littérature fantastique, toujours entre guillemets, traditionnelle, c'est que là, on vient de l'aborder, vous avez toutes des héroïnes, donc la faible femme totalement évaporée, qui dépend de son père, de son mari, de son petit ami pour être sauvée.
Dans l'urban fantasy, c'est ultra féministe. Les romans d'urban fantasy sont ultra féministes. Alors là, pour le coup, c'est toujours une héroïne très puissante, une kick-ass girl en général. Et effectivement, ce sont des romans où avec des héroïnes plutôt fortes d'une manière globale. Mais c'est ce qui est intéressant. Après, je vous dirais que... Parce qu'il y a il y a des courants qui m'énervent. Parce que moi, justement, je suis quelqu'un d'extrêmement féministe. Et par exemple, il y a certaines romances actuellement qui m'ont beaucoup choquée, où la femme était plutôt humiliée, etc. Il y a des choses où j'ai vraiment du mal. Et dans la littérature, je trouve que moi, en tant que femme, je trouve que effectivement, c'est pas mal l'urban fantasy comme ça, ça défoule, ça aide. Et puis quand c'est des gamines de 14 ans, 15 ans qui vous lisent, c'est très bien, ça les fait grandir, ça leur donne une image de la femme plutôt positive, plutôt forte, qui prend des décisions, qui n'a pas peur des hommes, qui n'a pas peur de l'affrontement. Voilà, et qui n'hésite pas à rompre avec ses familles, avec ses liens familiaux, etc., quand c'est nécessaire. Donc bref, ce sont des romans ultra féministes, hein, ça c'est clair. Alors Rebecca Keane, encore pire, hein. C'est un des pires, je crois.
Roxane.
Alors c'est sûr que Lou est une héroïne très très forte, hein. Dans la lignée de Rebecca Keane, on peut l'inscrire directement. Charlotte, c'est un peu plus subtil dans le sens où c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et qui ne va pas spontanément aller au conflit. Cela dit, le jour où quelqu'un qu'elle aime a un problème, ben là, elle va montrer les dents. Et là, ça va vraiment faire mal parce que comme c'est quelqu'un qui pourrait être n'importe laquelle d'entre nous ici, c'est vraiment quelqu'un de doux, de gentil, c'est quelqu'un qui ne va pas faire de vagues. Et le jour où elle a un ennui, par contre, là, elle se métamorphose au sens, pas au sens littéral. Hein.
Comme les mères quand on touche à leurs enfants.
Exactement. Et là, elle devient vraiment quelqu'un d'autre. Et je pense que là aussi, c'est intéressant d'avoir comme exemple, parce qu'il y a beaucoup notamment de jeunes filles qui peuvent se reconnaître en disant « Ah bah oui, moi aussi, quand il y a un gars qui m'embête, eh bah, je dis rien parce que voilà, j'ai peur. » Mais par contre, le jour où il se passe un truc, là, elles vont être capables d'aller mettre le fameux coup de genou dont je parlais tout à l'heure.
Assia aussi, elle. Bon, là aussi, c'est toujours difficile sans spoiler, mais on voit qu'elle aussi, elle grandit et qu'elle s'assume de plus en plus dans le troisième tome. Bon, on ne vous dira rien, mais.
Mais on passe de sorcière malgré elle à sorcière à tout prix.
voilà.
Ça veut tout dire.
Et justement, alors. Entre autres, une des voies de la transformation et une des voies par lesquelles vous mettez en scène des héroïnes qui sont des femmes qui s'assument, c'est qu'elles ont toujours des amours extrêmement compliqués.
Bah, en fait, quand on résume bien Rebecca, du premier au sixième tome, je crois qu'elle a eu que deux amants. Un premier qui n'a pas duré longtemps et le deuxième. Enfin, je veux dire, somme toute, elle a un régulier. Elle a un régulier depuis le premier tome, quasiment. Donc je dirais que c'est certainement une des héroïnes d'Urban Fantasy la plus sage.
Elle a quand même...
Ah non, elle a des amours, mais elle, c'est pas ça. C'est qu'en fait, elle couche pas avec d'autres... En amant, pur et dur. Moi, j'aime pas les scènes de sexe. Alors, je les réduis à environ 2-3 pages par bouquin où il y en a 500 et quelques. Donc bref, d'une manière globale, ça m'intéresse pas, ça me captive pas. Je comprends qu'il y ait des gens qui aiment bien écrire ce genre de truc, mais c'est pas du tout mon truc. Bref, je suis toujours dans l'action. Elle a pas le temps, hein. Non, un mec déjà, c'est ouh. Puis alors, il est pas facile celui-ci. Donc, pour le coup, non. Puis il prend de la place, ça, Raphaël, quand même. Donc.
Il faut qu'elle gère les autres qui.
Ah non, mais avoir des prétendants, c'est autre chose. Ça, alors là. Mais en général, le personnage est superbe. Donc effectivement, de toute façon, même dans la vie d'une femme normale, vous avez toujours des prétendants quand vous êtes superbe généralement. Enfin, moi, je vois des filles de 20, 25 ans, sublimissimes. C'est bizarre, il y a toujours une nuée de garçons hein, intéressés. Donc ça, c'est autre chose. Mais si on parle de sa vie sexuelle, elle est extrêmement calme par rapport aux autres héroïnes d'Urban. C'est vraiment, je crois que ça doit être la plus calme. Celle qui a le moins d'amants, celle qui a le moindre... Et celle où il y a pratiquement... Peut-être la série où il n'y a pratiquement pas de sexe par rapport aux autres. Ah, ah, ah. Allez, eh ouais. Si tu regardes bien, il doit y avoir 2 ou 3 pages. Je te promets, sur 500 et quelques pages, tu as 2-3 pages maximum par tome, et parce que je m'y contrains. Voilà. C'est pas ce que j'aime écrire, moi. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui font ça très bien. Et dans les romans, Hamilton fait ça très, très bien. Mais c'est pas mon truc. Voilà.
C'est vrai qu'écrire une scène de sexe, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver 50 mots différents pour désigner l'organe masculin et il n'y en a pas tant que ça, en tout cas pas tant que ça des pas vulgaires. Quoi. Donc c'est compliqué, je suis d'accord.
Ah, non, puis c'est pas le plus intéressant dans
l'histoire.
C'est
pas le plus intéressant.
Il faut être très clair, c'est pas le plus intéressant.
Non, mais de toute façon, Cassandra O'Donnell, on voit votre état d'esprit, vous avez déformé ma question. Moi, j'ai parlé d'amour compliqué, je n'ai pas parlé de sexualité compliquée.
Amour compliqué, oui. Oui, non, mais ça, c'est dû à son partenaire et à l'extrême complicité de l'homme qu'elle a choisi. pour le coup, de l'homme, enfin, entre guillemets.
Oui, alors sur les amours compliquées, voilà, Asia, elle n'a pas de chance, elle s'éprend du garçon qui est le fils de la famille ennemie. Bon, voilà, tant qu'à faire, les deux familles se détestent pour des problèmes, des questions d'ailleurs qu'elle ne connaît pas, puisque finalement, puisqu'elle n'a pas sa mère et sa tante pour lui en parler, elle ne sait pas trop. Et Alec, le garçon en question, bah, lui, ça le saoule aussi, ces histoires de famille. Il estime qu'ils ne sont pas leur famille, qu'ils doivent avoir leur liberté et que si ils ont envie d'être ensemble, bah, c'est leur droit. Sauf que, bon, c'est quand même évidemment toujours plus compliqué que ça, puisque vous avez quand même l'affection que vous portent vos familles qui entrent en ligne de compte et que du coup, bah, ça veut dire quoi être la ça veut dire, est-ce que vous allez jusqu'à la rupture avec votre famille pour être avec votre ami, votre petite amie? Ça, c'est quand même une question compliquée, d'autant que la question familiale est une question très importante dans Sorcière malgré elle, vu que justement l'héroïne en est privée. Et en plus, il se trouve qu'en plus, Alec, le garçon, il se révèle aussi avoir des pouvoirs. Il ne le savait pas non plus avant que Asia arrive. Et donc, du coup, tous les deux, ils ont des pouvoirs qu'ils doivent apprendre à gérer. Et ils ont leur famille, ou en tout cas les mannes de leur famille, qui, leur, voilà, qui sont là. Non, tu ne peux pas être avec lui ou tu ne peux pas être avec elle. Et c'est vrai que ça m'amuse aussi, du coup.
C'est super, les histoires à la Roméo et Juliette, j'adore. C'est vrai. Pareil pour la légende des quatre, t'as une histoire à la Roméo et Juliette dedans où les deux héritiers de deux clans différents tombent amoureux et n'ont absolument pas le droit. Puis en plus, il y a un problème de là pour le coup beaucoup plus emmerdant. Ce sont pas les mêmes animaux. Donc tu vois. Mais ça, c'est un ressort qui fonctionne tout le temps. Hein, je veux dire, et c'est ce qui est génial et c'est ce qui nous intéresse le plus. En plus, quand on lit les romans, c'est ils vont s'en sortir ces pauvres petits.
Dans les scorpies, les amours sont compliqués, mais pas dans le même sens, parce que en fait, c'est uniquement Adam, mais c'est le personnage en lui-même qui est quand même
c'est
difficile.
Ça. Oui, c'est-à-dire que quand on se retrouve du jour au lendemain marié à un tueur à gages, on se dit ma vie est moche, quand même. Enfin,
ça dépend combien il gagne. Hein.
Ah, elle a surtout peur d'y passer aussi. Ah ouais, et pas qu'à la casserole. Hein,
c'est... Ah oui, non, mais parce qu'à la base, s'il ne ramène pas le boulot à la maison, c'est tout. Hein.
Ah bah ça, c'est sûr que bah, du coup, du fait de ce mariage, elle va se retrouver. Elle qui était relativement, enfin, je ne vais pas dire pauvre, mais elle était dans la classe moyenne, voire dans la classe moyenne basse. Et d'un seul coup, elle va se retrouver princesse avec un majordome, une armée de jardiniers, deux demoiselles de compagnie. Et
bah, moi, je dis que ça se défend, alors là, faut être très clair, soyons pragmatiques, ça se défend. Le tueur à gages, moi, je dis, dans ces cas-là, on peut le tolérer.
Mais je l'ai dit depuis le début, mignon. Je voudrais en épouser un.
Non. Surtout qu'il est beau comme un dieu.
Ah, il est beau comme un
en
dieu.
En plus, bah, alors là, je veux dire, après, les questions de morale, c'est très subjectif, ça, de toute façon.
Et Alec aussi, il est très beau. Donc
il est très beau et il est très gentil parce que moi, j'ai aussi écrit le livre contre une série qui m'a beaucoup énervée, qui s'appelle After, parce que je trouve qu'une jeune fille qui accepte tout de la part de son petit copain, soi-disant, parce qu'il est beau, il est ceci, il est cela et tout ça, et qui l'humilie et qui...
voilà exactement le genre de lecture que je ne voudrais pas faire lire à mes enfants.
Exactement.
Ça, c'est clair.
Moi, je me suis dit, en écrivant cette série, je voudrais qu'une mère et sa fille puissent lire cette série et la partager d'une certaine façon. Et c'est vrai que Alec, le personnage principal qui est très très beau aussi, il est très gentil et d'une certaine façon c'est pas non plus hyper fréquent je trouve en biglite on va dire, parce que souvent c'est des bad boys et tout, et moi je trouve qu'il y a une vraie séduction de la gentillesse et Asia, voilà, Asia c'est la plus compliquée des deux hein, parce qu'avec toutes ces histoires et tout, elle change d'avis, elle le jette, elle le reprend, enfin voilà.
Je te suis là-dessus parce que effectivement pour le coup c'est un véritable problème qui se pose actuellement d'ailleurs pour les jeunes filles, mais ça va avec aussi 50 nuances de gris, etc. Enfin, je veux dire qu'il y a toute une tendance en ce moment où on a envie de brûler les livres et de l'interdire dans les bibliothèques pour les ados, quoi. ça c'est clair. Enfin, en tant que femme, en tant que féministe, des séries qui sont insupportables avec la place d'une femme. Je veux dire, humiliée par son compagnon, ses machins, ses trucs, c'est insupportable. Je veux dire, à part si on parle d'un témoignage réaliste où des gens luttent pour le droit des femmes, aujourd'hui qu'on est régressé à ce point-là et que des gamins, des ados, qu'on permette à des jeunes adolescentes de lire des trucs aussi scandaleux, ça me rend malade. Hein. Mais alors ça, je ne dois pas être la seule auteure là-dessus. Ou je ne sais pas si c'est parce que je suis maman ou quoi que ce soit, mais moi, je n'ai pas l'intention que ma fille soit l'esclave sexuelle de son mec et qu'elle cède à tout et sous prétexte qu'il est mignon, qu'il est machin. Enfin, je veux dire, j'espère que ma fille saura se défendre. Et voilà. Mais pour le coup, c'est insupportable, quoi. J'avoue que là, c'est la première chose, quand on me demande des conseils de lecture, je barre. C'est les trucs en rouge à pas donner aux enfants ou aux adolescents. Voilà. Et même si ça se vend bien, puis merde, en plus, il y a un truc que je comprends pas, c'est que franchement, dans les livres comme 50 nuances de gris, etc., les trois quarts des trucs, on les avait fait déjà à 20 ans, hein. Je veux dire, c'est un truc pour mes mères qui ne couchent pas. Hein. Donc, je veux dire, les nanas, elles n'ont aucune vie sexuelle pour fantasmer là-dessus. Hein, faut être très clair. Donc, ce que je veux dire, c'est que somme toute, voilà, ça m'horripile, quoi. Voilà, ça m'horripile.
Alors, moi, il y a plein de trucs que je n'avais pas essayé. Du coup, j'ai essayé en lisant 50 millions de degrés. T'es sérieuse ? Et ça ne fonctionne pas.
Bah non, évidemment. Mais en plus, il y a plein de trucs qu'on a essayé bien avant. Mais non, mais je veux dire, il ne faut pas avoir de vie pour fantasmer là-dessus. Quoi. Donc, ou alors, pas connaître grand-chose. Ou alors, il faut changer de partenaire. Mais d'une manière globale, de toute façon, en ce qui concerne ces livres-là, effectivement, After, etc., je suis d'accord avec toi. Avoir des personnages masculins, gentils, prévenants et plutôt sympas avec leurs partenaires, ce n'est pas désagréable. Et effectivement, surtout quand on s'adresse à du young adult, quand c'est du young adult particulièrement. C'est les choses auxquelles on fait très, très attention. Moi, j'écris pour les enfants aussi et pour les jeunes adolescents, les 12-14, pour la légende des 4. Je peux vous dire que je fais extrêmement attention aux relations garçon-fille dans mes romans et à l'image de la femme dans les romans. C'est hyper important parce que les enfants s'imprègnent de ce qu'ils lisent. Ils ont parfois fait un peu de mal à faire la différence entre la réalité, ce qu'on doit accepter, ce qu'on ne doit pas accepter. C'est pour ça que c'est aussi dangereux parfois de leur mettre dans les mains des livres qui sont à la fois pas adaptés à leur âge et surtout sans avoir nous lu avant ou sans nous avoir fait la critique des livres avant de leur conseiller. Donc c'est compliqué et aujourd'hui il y a une tendance sadomasochiste assez inquiétante et qui me rend malade. Et là-dessus je te suis.
Et une tendance, je dirais, assez paternaliste.
Et en plus
je ne vais pas citer de nom, mais il y a une série crépusculaire qui indiquait qui laissait quand même assez perplexe quant au but final. Non, but final, on couche quand on se marie et on tombe immédiatement enceinte.
Oui, alors c'est bien, mais c'est dans les pays asiatiques, hein, la Corée, tout ça, c'est normal. Hein, on reste chez papa-maman jusqu'à ce qu'on se marie, effectivement. Ça explique beaucoup de divorces, d'ailleurs, chez eux. Des gens malheureux, etc. Donc, c'est compliqué. Et les Japonaises qui veulent plus se marier, hein, je veux dire, je sais plus, j'ai vu un truc, c'était entre, je crois, 40% des gens qui avaient entre 25 et 35 ans qui étaient vierges au Japon. Moi, je veux dire, il y a un gros problème de ce côté-là. Donc, effectivement, dans les sociétés paternalistes, et il y a un vrai problème de ce côté-là, hein, de toute façon. Donc, c'est pour ça que dans la littérature et l'urban fantasy permet ça. C'est une littérature qui véhicule une image extrêmement féministe. Et c'est pour ça qu'elle est importante, elle joue un rôle important dans la littérature fantastique. Mais d'une manière globale, il faut faire très très attention, quoi qu'on achète, même quand ce sont des romans fantastiques, peu importe, quel que soit le genre, fantastique, réaliste, romance, peu importe. Mais faire très très attention à ça. Et nous, quand on écrit, effectivement, on va transporter des valeurs et les gamins vont les capter et s'en imprégner. Et c'est ce qui est dangereux.
Et dans les valeurs aussi que vous transmettez, on s'aperçoit qu'en fait, ces personnages qui sont dotés de pouvoirs hors du commun, etc., finalement, sont comme nous. Ils se débattent dans les mêmes problèmes. Sauf lorsqu'ils épousent un tueur à gages, il faut qu'ils gagnent, riche et beau, il faut qu'ils gagnent leur croûte tous les jours, ils peuvent se retrouver au chômage, etc. Donc, est-ce que ça aussi, ça fait partie de ces choses qui différencient de la littérature fantastique traditionnelle? Personne ne se posait ce genre de questions. En fait.
Non, mais disons que ça dépend de ce qu'on traite. Quand on parle de littérature fantastique, de toute façon, C'est simple. On peut pas dire la même chose, par exemple, de la Métamorphose ou de Maupassant ou de d'autres auteurs que je considérerais. Voilà. Le journal ou de Marie Shelley, de Frankenstein, de Dracula, etc., de Bram Stoker. Je veux dire, il y a des choses où il y a des états d'âme. On parle quand même des états d'âme, des ennuis. Ils ont beau avoir des pouvoirs surnaturels, ils ont tous des ennuis quelque part. Même si, effectivement, Dracula représente le mal absolu, il a des ennuis. Il a perdu la femme qu'il aimait, etc., etc. Et il essaie de retrouver l'amour. C'est des emmerdes que peut tout à fait avoir un humain. Voilà, il a perdu, il est en deuil. Donc pour le coup, je pense que c'est parce qu'on humanise forcément nos personnages, sinon c'est inintéressant. Vous en faites des monstres, et voilà, d'une manière globale, voilà. C'est cette humanisation des personnages, du personnage, qu'il ait des pouvoirs ou non, qui est intéressant. Et ce qui fait que nous, on va pouvoir s'identifier à lui. Sinon, effectivement, on peut créer des personnages, des créatures fantastiques, mais qui ont un mode de fonctionnement qu'on ne connaît pas, qu'on n'imagine pas, un cerveau qu'on ne connaît pas. Et à partir de là, on est plus dans la guerre des mondes.
Ou dans le conte Dracula.
Oui, aussi.
Et puis on en revient à la définition du fantastique du départ. C'est-à-dire que dès l'instant où ils s'inscrivent dans notre monde, le monde réel, ils ont forcément les mêmes problèmes que nous. Même mon tueur à gages super beau et super riche, son problème, c'est de trouver des contrats pour continuer à payer son manoir, payer ses domestiques, payer les machins, et puis faire attention à l'image de marque de sa famille. Donc en fait, il est chef d'entreprise, le gars.
Oui, ça se fait souvent, ça, c'est bien, ça, t'as des conglomérats même pour ça.
Les conglomérats du crime.
Alors justement, dans le tome 3...
Non, pas de spoiler, Méropée.
Oui, sur le côté contemporain, c'est évident que c'est intéressant d'avoir des personnages. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que le personnage de la sorcière, c'est un personnage hyper... polysémique, enfin, je veux dire, vous pouvez faire des sorcières dans tous les sens, dans tous les... Enfin, il y a souvent cette idée de la sorcière qui habite en marge de la ville ou du village, qui est un peu dans les bois et tout. Bon, ça, c'est une image traditionnelle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir aujourd'hui, c'est quoi être une sorcière. Et au départ, mon héroïne, avant qu'elle découvre ses pouvoirs, en fait, elle est un petit peu aqueuse, elle est assez forte avec ça, et donc elle a géré quelques-uns de ses problèmes par la technologie, avec son téléphone portable et son ordinateur, et en hackant des choses et tout. Et en fait, petit à petit, comme elle va quand même progresser avec ses pouvoirs de sorcière. D'une part, la technologie et la magie ne sont pas compatibles. Donc, quand elle a son téléphone et qu'elle essaie de faire un truc, un sort et tout, ça marche. Tant son téléphone ne marche pas, donc il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Et petit à petit, donc, elle va effectivement gagner en maturité sur sa maîtrise de la magie. Et du coup, elle va plus s'en servir. Mais ça ne veut pas dire que ses problèmes contemporains, qui sont trouver un boulot, résoudre ses problèmes de cœur, mettre fin retrouver les fragments maléfiques, les désensorceler pour qu'ils arrêtent de contaminer encore des gens, etc. Ça reste toujours ses problèmes à elle, quoi. Donc c'est ça qui m'amusait aussi, c'était ce mélange entre la figure de la sorcière et c'est quoi être une sorcière aujourd'hui dans une ville qui pourrait être la nôtre, quoi.
Moi, je surveille un petit peu ma montre, je suis obligé pour pas qu'on... Là, on est bon, mais bon. Alors, est-ce qu'en conclusion, on pourrait pas dire, finalement, après vous avoir écouté, que finalement, la fantaisie urbaine représente la mutation du fantastique qui suit la mutation de notre société? Parce que le fantastique auquel on se référait, c'est le fantastique fin 19e, début 20e, la société a évolué et donc le fantastique aussi.
Évidemment. Et nous, on est imprégnés en tant qu'auteurs par l'univers dans lequel on vit, on habite ou celui dans lequel on a grandi. Donc c'est cette imprégnation qui fait qu'effectivement, il y a une évolution. Parce que nous, on est les témoins de notre temps. Et puis dans 30 ans, il y aura autre chose. Enfin, je veux dire, et donc c'est une évolution. Évidemment, il y a une évolution, mais c'est tout le thème de l'évolution de l'écriture quand on est écrivain, tout simplement. Avec le temps, on n'écrit plus de la même façon. On n'écrit pas aujourd'hui de la même façon qu'au 18e siècle ou au 19e, ou peu importe. Bref, dans notre façon d'écrire, on transforme les choses. Et c'est exactement la même chose dans notre vision du fantastique. Puisque de toute façon, aujourd'hui, on reproduit les mondes qui existent autour de nous. Et avec nos propres fantasmes, après, notre propre imaginaire, notre propre délire et notre façon d'interpréter. Voilà.
Vous avez bien compris, Cassandre. Roxane ?
Je suis embêtée parce que je suis complètement d'accord. Donc.
Méropée ?
Oui, et c'est vrai, je voulais juste revenir sur un petit point, c'est que on a parlé du secret que les héroïnes doivent garder par rapport à leur leur pouvoir. Et c'est vrai que du coup, c'est intéressant de voir comment on peut cacher aujourd'hui des choses dans une société où il y a de plus en plus de choses qui sont connues. Et c'est ça qui m'intéressait aussi par rapport à mon héroïne, c'est-à-dire que dans le tome 2, elle va faire partie d'un groupe de super élèves, super forts pour un projet autour, écologique autour du port et du nettoyage du port de la ville, du port de pêche de la ville. Et en fait, elle hésite vraiment même à postuler pour ce projet, même si c'est un projet rémunéré, donc elle se dit cool, je vais avoir une bourse et tout, ça va être chouette. Mais en même temps, elle se dit oui, mais si je suis en lumière par rapport à ça, parce qu'il y a 3 élèves, hein, donc la ville les félicite, enfin voilà, c'est une structure un peu connue, et du coup, elle va être elle connue pour ça, et elle se dit oui, mais faut que je fasse attention parce que je sais que je dois cacher mes pouvoirs, et du coup, être sous les spotlights, bah, c'est pas une bonne idée par rapport au secret. Et encore une fois, avec justement notre société qui est hyper dans l'information, voilà, donc ça c'était aussi une thématique qui m'intéressait par rapport à comment on cache aujourd'hui un secret quand on a des pouvoirs fantastiques.
Où on se planque à Paris.
Où on se planque dans les catacombes de Paris, parce que si les gens voient quelque chose de surnaturel, ils vont se dire « Oh, c'est normal ».
Très bien, bah écoutez, je crois qu'il ne nous reste qu'à remercier nos 3 auteurs. Et vous l'aurez compris au travers de mes questions. Personnellement, je me suis beaucoup amusé à lire ces 3 séries. Je me suis régalé avec et je vous invite à faire de même. Merci, mesdames.
Merci beaucoup. Merci, Jean-Luc.